Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
La psychanalyse, qui ne dédaigne pas la provocation, surtout quand c'est Lacan qui s'y met, a fait du phallus une notion centrale. Disons-le illico, pour la psychanalyse, le phallus n'est pas le pénis. Si elle est phallocentrée, elle détourne, et de beaucoup, la définition commune du phallus. Mais ça prête à confusion. Donc, quelques précisions s'imposent. Pour la psychanalyse, le phallus, c'est la rencontre impossible. L'homme, porteur du pénis, croit l'avoir. Mais non. La femme, elle, le désire. Qu'est-ce donc que cela signifie ? Que la femme désire la rencontre impossible ? Peut-être bien, surtout si c'est une belle hystérique. C'est-à-dire surtout si c'est la femme-femme. L'hystérique dont Lacan disait qu'elle voulait parler à Dieu plutôt qu'à ses seins, ou encore qu'elle cherchait un maître pour le faire chuter. L'hystérique désire l'impossible. Imaginons un peu ce qu'il se passe quand un homme se croit porteur du phallus et que la femme le désire pour lui montrer que non, il ne l'a pas. Vie de couples ordinaires. Le phallus, donc, c'est pour la psychanalyse le manque. Autrement dit, le désir lui-même. C'est encore ce qui n'existe pas. Drôle d'idée tout de même d'avoir choisi ce nom-là pour désigner le manque, le désir, l'impossible rapport sexuel, l'impossible tout court, si vous me passez l'expression. Certes, il doit rester là-dedans un petit peu de centrage masculin. Pourtant, la notion et le choix de l'appeler phallus n'est pas sans intérêt et est tout à fait révolutionnaire. Car enfin, elle renvoie l'homme et la femme à leur essentielle incomplétude. Nul n'est le tout. Tous, nous avons affaire avec le fait d'être d'un sexe et pas de l'autre. Et il faut se débrouiller avec ça et articuler, comme on peut, ce sexe biologique avec les constructions sociales et historiques que porte notre genre. C'est cette incomplétude que pointe la psychanalyse. Or, si l'homme a le pénis et croit avoir le phallus, la femme qui n'a pas le pénis désire être le phallus, celle qui provoque et à qui s'adresse le désir. Et le féminin là-dedans ? Il me semble que cette notion de phallus rend au féminin toute sa place. Car le féminin n'est pas la féminité, c'est-à-dire les attributs dont les stéréotypes dotent les femmes. Sensibilité, douceur, finesse, etc. Comme si c'était le propre des femmes. Le féminin n'est pas non plus ce qui concerne ou englobe les droits des femmes à l'égalité avec les hommes. Même si les luttes féministes sont primordiales pour que hommes et femmes puissent mieux vivre ensemble, même si elles sont parfaitement légitimes au vu des inégalités persistantes et des dévalorisations insistantes répandues par le sexisme ordinaire, ce n'est pas là l'objet de la psychanalyse. La psychanalyse a le mérite d'avoir tenté de définir le féminin, ce à quoi la philosophie ne s'est jamais intéressée. Certes, Lévinas y a fait un rapide retour, mais il s'est vite concentré sur la notion d'altérité, sentant très certainement le côté casse-gueule de cette notion de féminin, impossible à définir. Parce que, précisément, on pourrait dire que la définition du féminin s'est échappée à la définition. Le féminin. C'est l'autre. La difficulté que ça pose de dire ça comme ça, c'est qu'on peut entendre que le féminin ne se définit que par rapport au masculin. Ce qui est vrai, mais aussi vrai que le fait que le masculin ne se définit que par rapport au féminin. Un peu comme le jour se définit par rapport à la nuit, ou le silence par rapport aux mots. Oui. Et il est curieux que ce soit plus facile d'en passer par une notion extrême orientale, telle le Yin qui se définit par rapport au Yang. Dans la philosophie chinoise et dans celle d'Héraclite, la logique à l'œuvre n'est pas la logique occidentale qui veut, en gros, que si A n'est pas B, il est soit son contraire, soit son complémentaire. La logique héraclitéenne et la logique chinoise pensent le lien entre A et B comme à la fois nécessaire et impossible. Bref. Pour le dire en termes profanes, chaque être humain porte en lui, masculin, avoir, et du féminin, être. Je n'ai pas dit une part de masculinité qui sous-tend des stéréotypes masculins, ni une part de féminité. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que chacun articule comme il le peut masculinité et féminité avec des dosages variables selon les cultures, les époques, les éducations et les individus, et même selon les jours. Mais porter du féminin et du masculin, c'est tout autre chose. Si le masculin, ce sont les mots, le féminin, c'est cette infinie possibilité de les agencer, notamment par la parole poétique. Si le masculin, ce sont les notes, le féminin est l'infinie possibilité de la musique, ce que Yankelevitch nommait avec beaucoup de finesse l'ineffable. Or, chacun de nous porte en lui une appétence à la parole et au silence, où naît ou se refuse cette parole. Pour le dire autrement encore, chaque être humain, pour être un humain vivant, doit composer avec une part d'existence qui le fait agir, produire, parler, créer, et une part d'être qui le dépasse toujours et que certains appellent art ou Dieu ou féminin. En ce sens, le féminin n'existe pas et le masculin n'est pas. Deux remarques s'imposent. Pour de multiples raisons, on a fait des femmes les porteuses du féminin et les hommes les porteurs du masculin. C'est ainsi qu'au lieu de considérer Pénélope comme le féminin de chaque humain et Ulysse comme son masculin, on en a fait cette lecture bas du front où Ulysse est un conquérant, apprécié des uns et vilipendé par les autres, et Pénélope, l'épouse modèle, évidemment patiente et fidèle, admirée des uns et vilipendée par les autres. Alors même qu'Ulysse est l'incarnation de l'appétence de chacun à la découverte, à l'ailleurs, aux infidélités et à l'action, tandis que Pénélope incarne le désir de chacun pour l'intériorité, l'amour fidèle, la réflexion et le temps pour comprendre. Or, en faisant des femmes les porteuses du féminin, il est certain qu'en les attaquant, violant, maltraitant ou diminuant, c'est bien le féminin en chaque être humain qu'on vise. Féminin qui, parce qu'il est ineffable, n'avait en aucun cas à être invisibilisé. Mais il n'est pas impossible, pour citer Freud, qui n'a pas dit que des bêtises sur la différence des sexes, même s'il a dit des atrocités, il n'est pas impossible donc qu'une pièce capitale, motivant l'attitude de rejet narcissique mêlée de beaucoup de mépris de l'homme à l'égard de la femme, doit être attribuée au complexe de castration et à l'influence de ce complexe sur le jugement porté sur la femme. En très gros, dans la peur de perdre le pénis qu'il a et le refus de perdre le phallus qu'il n'a pas, l'homme rejette sur la femme, porteuse du féminin qui n'existe pas mais qui est, la perte qu'il ne veut pas subir, à savoir la reconnaissance de son incomplétude. On ne sera dès lors pas surpris que nos masculinistes, dans un fantasme de toute puissance, s'en prennent au féminin qui, précisément, incarne le manque. De même d'ailleurs que les totalitarismes s'en prennent à tout ce qui incarne cette altérité qu'ils détestent parce qu'elle rend impossible la pureté totalitaire, qu'il s'agisse de s'attaquer aux Juifs ou aux Palestiniens, aux homosexuels ou aux intellectuels, aux pauvres, aux artistes ou aux handicapés. Tout ça pour dire qu'on n'est pas au bout de nos peines. I've got